Seigneur, tu es grand. On est béni. Amen. Il fait beau en dedans, il fait beau dehors. C'est merveilleux. Hein? Alléluia. Seigneur, merveilleux. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager quelque chose sur un voyage. Parce que moi et mon épouse, on s'en va justement en voyage cet après-midi. Parce que la semaine passée, je vous disais que pendant que j'étais ici, mon fils, son épouse, était en train d'accoucher finalement. Fait qu'ils ont eu un petit gars vers 3 heures dans l'après-midi. Donc, cette semaine, on monte puis on va aller faire notre rôle de grand-parent. Mais on est content qu'Astor, c'est plus nous autres qui s'en occupent. Alléluia. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, que ce que tu as commencé en nous, Seigneur, tu vas l'amener à terme, Seigneur. Et que toute chose se fasse pour ta gloire, pour ton honneur, Seigneur, afin que tu puisses grandir dans nos vies, Seigneur, afin que tu puisses être glorifié autour de nous, Seigneur, afin que d'autres personnes entendent parler de toi et puissent grandir dans tes voies. Afin que tu sois béni encore davantage, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler du voyage de Paul à Rome, de Actes 27. C'est un chapitre de la parole de Dieu qu'il me revient souvent à l'esprit. Il me revient souvent à l'esprit parce que ça parle beaucoup. Donc, je vous encourage, on va regarder juste aujourd'hui quelques versets seulement, mais je vous encourage chacun de vous à la maison de lire Actes 27, tout le chapitre, et de demander au Seigneur qu'est-ce que Dieu a pour chacun de vous à travers ça. Et c'est à chaque fois que je leur lis, Dieu a toujours des choses différentes pour moi, c'est extraordinaire. Voyage vers le roi. Hébreux 10, 36, ça dit... « Car vous avez besoin de persévérance. » Mais on peut marquer, ça dit, « Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous était promis. » Amen. C'est un beau verset, hein? On a besoin de persévérance. Parce que la vie chrétienne, c'est pas une course. C'est un marathon, ça dure longtemps. La vie chrétienne... C'est essoufflant, puis ça dure longtemps, puis ça nous prend de la persévérance. Ça nous prend de l'endurance. Ça nous prend tout. Il faut que le Seigneur nous aide à persévérer à travers tout ça. Fait que la semaine passée, je vous avais parlé de mon fils, son enfant. Mais aujourd'hui, mon fils, il a 41 ans, mais je me souviens, lorsqu'il avait gradué au secondaire 5, il allait à l'école ACE dans ce temps-là, les écoles chrétiennes là, dans les églises. Là. Puis, il était trois qui graduaient. Il y avait mon fils, il y en avait un autre, puis il y avait un grand jeune homme aussi. Puis, il y en a deux qui graduaient, puis les autres, ça allait bien à l'école, puis ça marchait. Puis, tu sais, j'y regardais leur personnalité, la personnalité de mon fils, la personnalité de Patrick. Puis, j'y vois encore aujourd'hui ces jeunes-là, tu sais, puis... Je vois, puis c'est quoi leur route? Leur route vers le ciel, c'est quoi leur route? Puis il y en avait un autre aussi, un jeune, que lui, il est allé à l'école quelques années, mais ils ont donné, quand même, j'ai trouvé ça bien de l'Église baptiste, de lui donner un certificat de persévérance. Parce que lui, tout ce qu'il entend, ça ne rentrait pas. T'sais? Fait que là, il l'envoyait travailler avec son père dans un travail manuel, mais ils l'ont quand même... amené à la graduation, puis ils ont donné un certificat d'école de persévérance. Je trouvais ça bien, puis je me disais, j'y regardais tous les trois, je me disais, si je regarderais ça dans plusieurs années, tu sais, leur route, où ils sont rendus devant le Seigneur, où ils sont rendus dans leur foi. Et c'était intéressant de voir cela. Puis j'avais justement partagé quelques versets seulement de Actes 27, puis... Ça me revient souvent à Actes 27, parce que Actes 27, ce n'est pas juste le voyage de Paul à Rome. Parce que dans ce chapitre de Actes 27, on peut faire un parallèle entre le voyage du croyant aller jusqu'à temps qu'on va aller rencontrer le Seigneur. On peut faire un parallèle avec ça. Puis on peut faire un parallèle aussi avec le voyage de la chrétienté, qui s'en va jusqu'à temps qu'un jour elle va faire faillite jusqu'au retour de Jésus-Christ. On peut faire un parallèle avec ça aussi, quand on regarde ce chapitre de Actes 27. Fait que c'est pour ça qu'on va regarder aujourd'hui quelques observations. On va lire quelques versets. Mais si vous avez une chance, allez lire Actes 27 et demandez au Seigneur de vous montrer des choses. On va regarder quelque chose. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes. C'est bien écrit, hein? C'est tout écrit, hein? Nous montâmes, nous partîmes, nous voyageâmes. Hein? C'est Luc avait une belle plume. Hein? Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Sicile et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ne se fut pas sans difficulté. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous le côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de l'Asie. Tout un voyage. Mais j'aime lire ça de la manière qu'ils décrivent ça, puis c'est vraiment bien décrit. Il y a quelqu'un qui a regardé les voyages de Paul, c'est un érudit, puis il a essayé de prouver, avec toutes les phrases qui étaient, il a essayé de refaire tout l'itinéraire de Paul, puis il a essayé de prouver qu'il y avait des erreurs là-dedans. Puis au bout de quelques années, il s'est converti. Parce qu'il ne pouvait pas voir comment est-ce que un témoin oculaire a pu être si précis dans toutes ses observations du voyage de Paul. Fait qu'ici, on voit que le début du voyage, tout semble aller assez bien. Ils ont quelques vents contraires, ils ont quelques difficultés, ils avancent assez lentement, mais quand même, tout va assez bien. Hein? Tout va assez bien. Ça me fait penser souvent à beaucoup de croyants. Hein? Au début de notre vie chrétienne, beaucoup de croyants, on a des fois des petites difficultés, hein? Des fois il y a des petits vents contraires, mais ça va quand même assez bien, ça fait qu'on continue, puis on grandit dans le Seigneur tranquillement, puis on avance tranquillement, puis on se dit, bien, c'est pas si pire quand même, ça va quand même assez bien, puis on persévère dans la foi, puis ça me fait penser vraiment à cela. Quelques difficultés, mais quand même, tout va bien. Mais là, quand ils sont arrivés à Beauport, ils sont arrivés là fin septembre, début octobre. Naviguer sur la mer, ça devient difficile. Hein? Donc, là, il fallait qu'ils s'attendent à quelques turbulences. On va lire quelque chose. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée, c'était septembre-octobre. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Quand je regarde ces trois versets-là, ils s'en allaient tranquillement vers leur destination, mais oh, tout d'un coup, quelques mauvais conseils. Hein? Commencez à écouter les conseils des spécialistes. Hein, le conseil du pilote, le conseil des spécialistes, plutôt que d'écouter le conseil de Paul. Le conseil de Paul, c'est un conseil d'un homme de Dieu, mais souvent dans ce monde, on écoute bien plus les spécialistes qu'on va écouter le conseil d'un homme de Dieu. Hein? C'est là qu'on voit ça. Ils ont écouté le pilote et le patron plutôt que Paul. Et il en est de même souvent de la vie chrétienne. On commence des fois dans notre vie chrétienne, on s'en va tranquillement, on a quelques petits problèmes, quelques difficultés, mais ça va quand même assez bien. Puis tout d'un coup, il arrive quelque chose d'un petit peu plus difficile, puis on commence à écouter les conseils des spécialistes, les conseils des gens qui sont supposés connaître ça, au lieu d'écouter les conseils de la parole de Dieu. Et c'est là que, tranquillement, les choses commencent à aller moins bien. Hein? Ça dit, le proverbe 12:15, ça dit, « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Celui qui écoute les conseils est sage. Lorsqu'on s'en va dans notre vie chrétienne, souvent on va prendre des conseils des gens de ce monde, au lieu de prendre les conseils de la parole de Dieu. Et souvent, c'est quelque chose qui va nous amener des désagréments. Puis il y a un verset que je trouve très intéressant ici. Ça dit, « Un léger vent du sud vint à souffler. » Hey, là, ils ont embarqué dans le bateau. « Un léger vent du sud. » Hey, c'est-tu le fun? Hein, on s'en va, un léger vent du sud. Pense en Floride, là, hein? Puis là, c'est ça, ce mot-là. « Et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. » Se croyant maître de leur dessein. Souvent, quand tout va bien, on se croit maître de notre dessein. Quand tout va bien, on pense qu'on l'a. On pense qu'on est en contrôle. On pense qu'on est maître de notre dessein. Et même les croyants, quand tout va bien, souvent on pense qu'on est maître de notre dessein. Ça dit, l'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. C'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas, nous dit Jérémie. On a des projets, mais Dieu a un dessein à notre égard. Ici, ils se croyaient maîtres de leur dessein. Le Proverbe 19:21, ça dit, « Le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Amen. Nous autres, à la maison, on a beaucoup de projets, parce que mon épouse, elle a des projets. Puis quand on est toute la famille ensemble, puis Pauline a dit, « J'ai un projet », là, les gars sont là, « Oh, projet 15-14-B, parce qu'elle en a beaucoup. » Elle en a beaucoup. Mais c'est bon d'avoir des projets. C'est bon d'avancer. C'est bon d'aller de l'avant. Mais n'oublions pas ça. Ne pas se croire maître de nos desseins. Parce qu'on peut avoir des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui va s'accomplir. Parce que Dieu, il le dit, il y a des projets sur nous. Lui, il a des projets sur nous. Amen. Et c'est bon de marcher dans ses projets. De marcher dans ses projets. Ne pas se croire maître de nos projets. Ne pas se croire maître de cela. Je reviens tantôt, je vous ai parlé de mon fils, je reviens à ça parce que il y a quelques années, j'ai posé la question à Charles. J'ai dit, comment ça va? Puis on parlait. Puis là, j'ai dit, c'est quoi tes projets, Charles? Bien, il dit, moi, mes projets... Il dit, j'aimerais ça, là, tu sais, avoir une belle job. Tu sais, puis il dit, m'acheter une maison, avoir deux enfants, mon école de karaté. Puis là, un petit peu plus tard, on discutait, tu sais, puis il dit, ouais, j'aimerais ça quand même, il dit, être chrétien. Mais il dit, je pourrais-tu être chrétien sans l'Église? Les gens, ils ont des projets, mais c'est comme j'ai dit dans Isaïe 4 l'autre semaine, hein? En ce jour-là, cette femme saisira un homme, ils diront, enlève notre iniquité, prends notre fardeau, mais nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons. En voulant dire, on veut juste que tu enlèves nos problèmes, nos difficultés, mais on va se faire une religion à nous-mêmes. On va faire nos projets à nous-mêmes. T'sais? On va faire nos projets à nous-mêmes. Puis, le Seigneur lui a d'autres projets. le Seigneur, il y a d'autres projets. Puis aussi, dans Acte 27, ce que j'aime dans Acte 27, c'est que le bateau de la foi, le bateau de chaque croyant, on s'en va vers le Seigneur. C'est vrai. Mais notre vie dans ce bateau, notre vie sera testée. Notre vie sera testée. Il n'y a pas un croyant que je connais qui n'a jamais rien arrivé. Hein? Qui n'a jamais rien arrivé comme épreuve de la foi. Je ne connais pas un croyant. Notre vie en tant que croyant sera testée. Ça nous le dit dans 1 Pierre 1:7, ça dit, « Afin que l'épreuve de votre foi... » L'épreuve de votre foi, ça veut dire le test de votre foi. Le test de votre foi. Le test de votre foi. Votre foi sera testée. Puis le mot, ici, le mot « test de votre foi », en grec, c'est le mot « testu ». T-E-S-T-U. Puis ce mot-là, ça veut dire mettre dans un bocal avec le couvert par-dessus, puis mettre sur une tablette. Puis laisser là. Combien de temps? Le temps que le Seigneur le désire. Pour Moïse, ça a pris 40 ans. 13 ans pour Joseph, avant qu'il reprenne ses frères, et plusieurs autres aussi. Mais notre foi sera testée. Est-ce qu'on vit pour nous-mêmes ou on laisse de plus en plus le Seigneur vivre dans nos vies? Est-ce qu'on le laisse de plus en plus vivre dans nos vies? Notre foi, elle va être testée à travers les circonstances, à travers les difficultés, à travers juste notre marche quotidienne. Hein, des fois, nos enfants nous testent. Hein? Ils nous ont testés pas mal, nous autres aussi. La vie nous teste. On va être testés. On va être testés. Tu sais, puis je lis ce verset-là, ça dit « Plus précieuse que l'or périssable qui, cependant, est éprouvée par le feu. » Ça est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. On va être testé, mais afin de séparer ce qui est de nous-mêmes et ce qui est du Seigneur. Afin de ce qui est de nous-mêmes, on puisse le donner au Seigneur. Amen. Ici, l'or est séparé des scories à 1064 degrés Celsius. J'espère que le Seigneur ne me chauffera pas de même. Hein? Quelques degrés suffiront. Quelques degrés suffiront. Fait qu'on continue notre voyage. On a vu que, tranquillement, bien là, au début, ça semblait quand même aller assez bien. On a vu que là, il y a eu certains compromis. Certains ont écouté plus les autres. Et là, on va voir maintenant, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Un vent du Raculon. Hein? Avez-vous déjà eu ça dans votre vie, un vent du Raculon? Vous vous en allez par là, puis le vent t'amène là, là. Hein? C'est ça, un vent du reculon. Hein? Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Il n'y avait plus de contrôle. Il n'y avait plus de contrôle. Plus de contrôle sur le bateau, plus de contrôle sur rien. Il s'en allait à la dérive. Hein, c'est quelque chose, là. Puis, ce que j'aime là-dedans, puis quand je lis ça, je me dis, ils ont perdu le contrôle. Puis le contrôle, c'est quelque chose dans notre vie qu'on aime avoir sur notre vie. Hein? On aime tout ça, avoir le contrôle sur notre vie. C'est-tu dur de donner le contrôle de notre vie au Seigneur? On aime ça, avoir le contrôle. Hein? On aime ça, savoir ce qui va arriver demain matin. On aime ça, savoir qu'on contrôle nos affaires, nos finances puis nos choses. Hein? Quand j'étais plus jeune, moi, je me disais tout le temps, je suis assez bon pour jongler avec mes dettes puis mes affaires, t'sais. Jusqu'à temps qu'au jour, je n'ai plus été capable de les payer. Hein? Mais ça a pris l'aide de Dieu pour m'aider à travers tout ça. On aime ça, avoir le contrôle. On a de la misère à déléguer. Quand j'étais au club des jeunes, j'avais de la misère à déléguer, bien, je voulais garder le contrôle. Mais je m'ai aperçu, des fois, que quand je déléguais des affaires, c'était mieux fait que moi-même. Ça fait que ça t'aide, dans ce temps-là, à pouvoir donner le contrôle. Une personne que je connais me disait tout le temps, les hommes, c'est tous des contrôlables, des dominants. Moi, je disais, bien, ils sont où les normaux? Ah, il y a certainement des normaux. Mais oui, il y a des contrôlants, oui, il y a des dominants, parce que c'est difficile dans notre vie de donner le contrôle total de notre vie au Seigneur. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Ça nous prend de la foi. Ça nous prend de la foi pour dire, Seigneur, je te donne tout. Seigneur, prends tout. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est difficile parce que c'est là qu'on voit qu'on est encore vivant. On est encore vivant. C'est difficile de donner le contrôle. C'est difficile. Puis là, ça continue dans notre histoire. Au verset 17, là, ils ont hissé la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Smith, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Et ils ont été obligés d'attacher le bateau. Hein, dans ce temps-là, il y avait des gros câbles chez les bateaux. Puis quand il y avait des tempêtes, ils passaient le câble en dessous des bateaux, comme ça. Puis ils attachaient tout le kit ensemble. Ils en passaient plusieurs, là. Puis ils attachaient tout ça ensemble. Même toi, tu es obligé d'attacher le bateau. Attacher le bateau. Puis quand je lis ça des fois, attacher le bateau parce qu'il n'y avait plus de contrôle puis il était emporté par le vent, je me dis des fois, c'est quoi qui m'attache à mon bateau? C'est quoi qui m'attache à mon bateau? On est attaché à nos choses. On est attaché. Moi, je suis attaché à mes tomates. 5 heures à matin, je suis en train de les arroser. Parce que je sais que j'en ai pas l'après-midi. On est attaché à nos choses. On est attaché souvent à nos études. On est attaché à nos finances. On est attaché des fois à notre position sociale. On est attaché à nos choses. On est attaché à cela. On est attaché. Des fois, on passe des cordes autour de notre barque et de notre navire, puis on attache ça bien comme il faut. Puis on garde le contrôle sur tout ça. Hein? On a peur que le Seigneur prenne nos finances. On a peur que le Seigneur nous enlève, pour dire, bien, où est-ce que ça va m'amener? Moi, j'ai des études, j'ai ci, j'ai ça. On est attaché à toutes ces choses-là. Mais il faut laisser le Seigneur. Il faut laisser le Seigneur faire à travers tout cela. Et Paul disait même que toutes ces choses peuvent être même un obstacle à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, il nous disait ça dans Philippiens. Il disait, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Il dit, « Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Mais il dit, quand je regarde toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, il dit, je les regarde comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Des fois, on reste attaché à toutes nos choses, on reste attaché. Mais peut-être que le Seigneur, si on lui donne, si on lui laisse agir dans notre vie, peut-être qu'il y a des meilleurs plans encore pour nous-mêmes. Il y a peut-être des meilleurs buts encore pour nous-mêmes. Des meilleures choses. Hein? Comme Eliphaz, comme je vous ai dit l'autre semaine, disait à Job, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. » Des fois aussi, à travers les choses qu'on est attachées, des fois ça devient des sujets dans notre cœur que ça nous travaille. Hein? Il y a un de mes amis, je vous disais ça, que lui, donner, il ne savait pas quoi faire. Il avait assez peur que Dieu y enlève tout. Mais moi, je disais, il ne veut pas t'enlever tout. Il veut te bénir, au contraire. Il veut te bénir parce qu'il veut que tu donnes encore davantage. On continue notre verset. Le verset 18-19, ça dit... Comme nous étions violemment battus par la tempête le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous l'y lançâmes de nos propres mains les aigrettes du navire. Et mon Dieu, la tempête est devenue terrible. Hein, est devenue tellement terrible que là, non seulement ils vont jeter la cargaison, mais ils vont jeter tout ce, le nécessaire, finalement, il peut, tu ne peux plus naviguer si tu n'as si pas d'agrès-là. Hein? Ils vont jeter même ce qui est nécessaire. Ils vont jeter même ce qui est nécessaire. Ma mère, quand elle avait 94 ans, elle me disait, elle dit, Michel, elle dit, quand j'étais jeune, elle dit, moi puis ton père, on a eu un logement. Elle dit, après ça, on a eu une maison. Elle dit, après ça, on a eu une ferme. Puis elle dit, après la ferme, elle dit, j'ai retombé d'une maison. J'ai tombé d'un 5,5, d'un 3,5. Puis elle dit, là, j'ai 94 ans, je suis en chambre, elle dit, j'aime mon bureau de mon lit. Elle dit, c'est quoi qui est important? C'est quoi qui est important? C'est quoi qui est important? Des fois, nos yeux, eux autres, leur cargaison, c'était pour faire de l'argent. La cargaison de ce bateau-là, c'était pour vraiment faire des sous, c'était pour faire de l'argent et tout et tout. Mais c'est quoi le plus important? Dans 2 Corinthiens 4, 8, ça nous dit qu'on doit regarder aux choses qui sont invisibles. On doit faire attention de ne pas regarder juste aux choses visibles. Les choses visibles qu'on est béni avec, c'est parfait, mais on doit pas juste, ça ne doit pas devenir juste notre attache. Ça doit être complémentaire. T'sais? Ça dit que car nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Comme ma mère me dit, elle dit, c'est passager. Et les invisibles sont éternels. Amen. Les invisibles sont éternels. Ils ont été testés fort dans cette tempête-là. Puis ça dit au verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ils ont perdu toute espérance. Toute espérance. Ça représente beaucoup l'humanité sans Christ. Une humanité sans Christ, c'est qu'ils ont perdu toute espérance. Ils ont perdu toute espérance. Mais ici, la consolation, c'est que Dieu va intervenir au milieu de la tempête. Dieu va intervenir au milieu de la tempête. Parce que Dieu est le roi des tempêtes. Amen. Dieu contrôle les tempêtes, utilise les tempêtes pour sa gloire. Amen. Toute espérance était anéantie. Puis c'est souvent au milieu des tempêtes que chacun de nous, on a connu le Seigneur. C'est quoi les tempêtes dans nos vies? Les tempêtes, ça peut être la maladie, ça peut être les divorces, ça peut être les pertes d'emploi, ça peut être les deuils, ça peut être les burn-out, ça peut être les dépressions, ça peut être les vides dans notre âme, ça peut être les dépendances. Moi, je suis au seuil d'une tempête. J'arrive à la vieillesse. Pour moi, c'est une tempête. Parce qu'on ne sait pas où on s'en va, humainement parlant. Hein? Mais spirituellement, on le sait où on s'en va. Ici, les gens étaient sans espérance. Puis il y a un verset qui nous dit à nous, frères et sœurs, Hébreux 6, 19, « Nous, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. » Amen. Nous, on en a une espérance. On a un Dieu au milieu de la tempête. On a un Dieu qui est là. Je pense à mon ami Michel quand je pense des tempêtes. Mon ami Michel qui, depuis 6 mois, ils ont coupé les deux jambes. Puis on s'en va le voir mardi, on déjeune avec lui. Puis lui, c'est un mordu de la Gaspésie. Puis là, il vient juste d'être opéré pour se faire couper ses deuxièmes jambes. Je regardais hier soir sur Internet, là, il envoyait encore des affaires sur la Gaspésie, puis il avait hâte de y retourner, puis il avait hâte d'y aller. Il y a une foi incroyable au milieu de la tempête. Une foi incroyable au milieu de la tempête. Mais ici, on va regarder, oui, il y a eu une tempête, méchante tempête, mais on va regarder un croyant au milieu de la tempête. Amen. On va regarder un croyant au milieu de la tempête parce qu'à travers Paul, Jésus-Christ va se lever dans la tempête. Amen. À travers l'apôtre Paul, Jésus-Christ va se lever dans la tempête. Le verset 20, ça dit... Oh! Oui, c'est ça. Maintenant, Ça, c'est Paul qui parle. Là, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien. Il était en train de tout perdre. Puis, vous en souvenez qu'au début, ils n'ont pas pris la vie de Paul, hein? Ils ont dit, « Toi, Paul, reste tranquille. C'est les marins puis le pilote, on sait où on s'en va. Hein? » Mais ça les a amenés à vraiment à faire quasiment pratiquement un naufrage. Ça fait que là, mais Paul s'en va et dit, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. » Amen! C'est merveilleux, un chrétien au milieu de la tempête, c'est un croyant qui est en communication avec son Seigneur. Amen! Puis pendant la nuit, son Seigneur a dit à Paul, « Paul, crains pas, Paul, tu vas t'en aller à Rome parce qu'il faut que tu comparaisses devant, faut que tu comparaisses devant César. Donc, tu vas arriver à bon port. Donc, ceux qui sont avec toi ne périront point. Il y a juste le bateau qui va s'échouer. » Fait qu'il dit, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, « Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Amen. Paul, au milieu de la tempête, le Seigneur s'est levé à travers lui, et il va être l'instrument de Dieu au milieu de ce bateau-là, au milieu de cette tempête-là, afin de faire montrer la volonté de Dieu, afin d'être un encouragement, afin d'être quelqu'un qui va amener du réconfort au milieu de cette tempête-là. Amen. Et Dieu souvent amène des tempêtes dans la vie des gens qu'on connaît et va placer des croyants comme nous, des fois, au milieu de la tempête, afin que Dieu se lève et qu'on soit un réconfort pour eux. Amen. Et qu'on soit la personne qui va les aider, qui va les réconforter, qui va les exhorter à prendre courage. Parce que Dieu est oui et amen. Amen. Puis ça nous le dit dans 2 Timothée 3.1, ça dit, « Sache que dans les derniers tours, des derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Des temps difficiles. On vit dans le temps des derniers jours et on vit dans des temps difficiles. Et il y en a des tempêtes. Amen. Et ça prend des gens comme nous, comme Paul, qui est au milieu de la tempête et qui va, il peut se lever et dire, les exhorter et dire, « Ne crains pas, prends courage, va de l'avant, le Seigneur a un plan. » Amen. « Ne craignez pas, dit Paul, rassurez-vous, Dieu est en contrôle. L'influence d'un croyant au milieu de l'épreuve. » L'influence, on ne peut pas négliger l'influence d'un croyant au milieu de l'épreuve. Amen. Il faut prier que Dieu nous utilise au milieu de l'épreuve. Pas nécessairement de notre épreuve à nous, mais de l'épreuve de nos amis, parce qu'on a une espérance. On peut devenir un phare pour les autres. On peut devenir une référence. Ici, Paul, qui était l'esclave du bateau, il va quasiment devenir le capitaine, parce que non seulement il les encourage, tantôt il va lui dire quoi faire, puis il va les encourager, puis c'est lui quasiment qui devient le capitaine du bateau, finalement. D'esclave qu'il était, il est devenu quasiment le capitaine du bateau, parce que Dieu est avec lui, parce que le Seigneur est avec lui, parce que le Seigneur est avec lui. Paul, au début, ils ne l'ont pas écouté, ils l'ont pas écouté. Mais ici, le Seigneur lui dit, ne crains pas, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Dans Nombre 23, 19, ça dit, ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Amen. Et ce que Dieu avait dit à Paul, ça va s'accomplir. Il avait dit à Paul, il faut que tu, ce navire-là se rende à Rome, il faut que tu comparaisses devant César, et ça va s'accomplir. Amen, ça va s'accomplir. Et frères et sœurs, dans notre voyage nous-mêmes en tant que croyants, un jour on va comparaître devant le Seigneur, bien ça va s'accomplir. Amen, c'est oui et amen, ça va s'accomplir, on va continuer sur notre bateau de la foi, et qu'importe les tempêtes, on va comparaître devant le Seigneur. On va comparaître devant le Seigneur. 2 Corinthiens 5, 12, c'est ça que ça nous dit. Car il nous faut tous comparaître, les croyants, devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. C'est une promesse et Dieu accomplit ses promesses. Dieu accomplit ses promesses. soyons persévérants, soyons encouragés, soyons encourageants pour ceux qui vivent autour de nous des épreuves, soyons encourageants pour ceux qui ont des difficultés. Demandons au Seigneur d'être un fort pour ces gens-là. Amen. Le verset 30, ça dit, « Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul leur dit au centenier, tu vois, il n'écoutait pas encore, là, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Quand je lis un verset comme ça, ça me fait penser à beaucoup de gens que je connais qui étaient embarqués tranquillement dans le bateau de la foi, puis qu'à travers les années, ils ont fait un peu comme les marins ici, là. Ils voulaient se sauver en dehors du navire. Puis ils ont délaissé les églises, puis ils ont délaissé. On écoutait dernièrement le témoignage de quelqu'un que j'ai entendu dans les années 70, puis qu'aujourd'hui, son langage est totalement différent, puis totalement délaisser le navire de la foi. Mais c'est dommage. C'est dommage. Frères et sœurs, quand je vois un verset comme ça, puis que Dieu me montre ça, je me dis, on ne veut pas savoir, tu sais, des fois, les gens dans les églises, on discute, on dit, y avait-tu vraiment été sauvé ou il n'y avait pas été sauvé vraiment? Y a-tu pas vraiment persévéré? Ou... Mais ce n'est pas de théologie qu'il faut discuter. Il faut prier le Seigneur que Dieu touche son cœur par le Saint-Esprit et qu'il les ramène dans le bateau de la foi. Amen. C'est ça qu'il devrait être comme fardeau sur nos cœurs et sur nos esprits, afin que Dieu puisse les ramener sur le bateau de la grâce, les ramener en route vers le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on pourra faire comme Paul, qu'on pourra lui dire, ne crains pas, qu'on pourra les encourager, qu'on pourra vraiment bénir le Seigneur par leur présence. Amen. Le verset 39, 40, 41, ça nous dit, « Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient, et délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers leur navire, vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre et ils firent échouer le navire et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. » On voit ici que le navire s'est échoué, puis le lendemain matin, le navire va vraiment faire naufrage. Puis, qu'est-ce que ça montre, ça, vraiment? T'sais, qu'est-ce que ça nous montre? Ce verset-là, quand je lis ça, ça me dit, le naufrage de la chrétienté, que les gens qui professent juste le Seigneur de nom, ce navire-là va s'échouer, il va faire naufrage. Il va faire naufrage dans les derniers jours. Et les 276 ici, que Dieu a dit à Paul, il a dit, ces 276-là, je te les donne. Ça représente les croyants qui sont dans le bateau de la foi et qui sont sauvés par le salut, par grâce. Eux, aucun ne périra. Aucun ne périra. Amen. Aucun ne périra. Ceux qui appartiennent au Seigneur par la grâce, aucun de ceux-là ne périra, mais vont se rendre au rivage et vont être capables d'accoster sur l'île et vont arriver sains et saufs, parce que Dieu l'avait dit à Paul, c'était oui et amen. Amen qui allait arriver. Et nous aussi, frères et sœurs, si on reste sur le bateau de la foi et qu'on persévère, on va comparaître devant le Seigneur. Et on va aller devant lui et on va arriver à bon port. Jacques 10, 28, ça dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Même pas les tempêtes de cette vie. Amen. Même pas les tempêtes de cette vie. Personne ne les ravira de ma main. Le verset 44, ça dit, et il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. J'aime ce verset-là, parce que ça dit, on ne sait pas comment qu'on va arriver. Hein? On ne sait pas comment qu'on va arriver. Ici, il y en a qui arrivent à nage, il y en a qui arrivent sur des débris, il y en a qui arrivent sur des planches. Chacun de nous, on va arriver différemment devant le Seigneur. Mais ils ont arrivé sains et saufs. C'est ça qui est important. Hein? Ils ont arrivé sains et saufs. Hein? On va arriver devant le Seigneur, peut-être qu'on n'aura plus tout ce qu'on a sur notre corps. Hein? Il y a des perruques, il y a des dentiers, il y a des prothèses, ça va tout rester là. Hein? Jeanne d'Arc, elle est pleine de vis, ça va rester là. Mais on va arriver devant le Seigneur. Amen. Parce que Dieu, il l'a promis, le Seigneur, il l'a promis. On ne sait pas comment on va arriver, mais on va arriver. Quand je lis ce verset-là, ça me fait penser au verset des Béatitudes de Matthieu 5, quand il dit, je ne l'ai pas marqué, mais ça dit, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, mieux vaut enlever ton œil afin de pouvoir comparaître devant le Seigneur. Hein? » Il dit, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, mais vaut mieux enlever ta main pour arriver devant le Seigneur. » Ça me fait penser à ça. On ne sait pas comment on va arriver, mais on va arriver parce que le Seigneur, il nous l'a promis. Nous, ce qu'il nous demande, c'est de persévérer. Ce qu'il nous demande, c'est de garder la foi. Ce qu'il nous demande, c'est que Dieu soit notre pilote au milieu des tempêtes. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que être aussi un phare pour les autres au milieu des tempêtes. Comme Paul ici a pu se lever et a dire, « Jésus est vivant. Il m'est apparu et il me dit, « Aucun de nous ne périra, mais on va se rendre à bon port. » Parce que le Seigneur le dit. Oui et amen. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce acte 27, je vous encourage vraiment à aller le lire pour chacun des versets pour vraiment que Dieu vous parle à travers cela, que Dieu vous montre vraiment différents aspects de ce récit-là, parce que c'est un récit qui vraiment parle beaucoup, puis il peut parler à travers à chaque personne selon sa situation. Puis je vous encourage. Hébreux 10, 36. Ça dit, car nous avons besoin de persévérance. On a besoin de persévérance. Chacun de nous, on a besoin de persévérer. On a besoin, parce que la vie chrétienne, comme on a dit tantôt, quand tout va bien, quand il y a quelques difficultés, c'est facile. Mais le Seigneur, il ne nous a pas promis que tous les jours, ça serait facile. Mais par contre, il nous a promis que tous les jours, il serait avec nous. Que tous les jours, il serait avec nous. Et comme pouvait dire Paul, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car je suis au milieu de vous. » Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Nous obtenions notre héritage dans la gloire. Amen. Nous obtenions notre héritage qui nous est promis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que notre demeure est dans les lieux célestes. Ayons nos yeux sur les choses invisibles. Au lieu de... Essayons d'avoir un peu moins les yeux sur les choses visibles. Persévérons dans la foi. Parce que les choses vont arriver telles que le Seigneur nous l'a promis. Amen. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merveilleux, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. On te prie, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse faire un effet dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Qu'à travers ce voyage de la foi, Seigneur, que tu puisses nous accompagner, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses faire de nous aussi un témoignage pour les autres à travers les épreuves, afin que notre Dieu soit béni, soit glorifié au nom de Jésus. Amen.